journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, votre espace de commentaires, de débats et d'analyses autour des sujets qui font l'actualité aujourd'hui dans le journal des auditeurs, actualité française. Et une question: que faut-il attendre du grand débat national? Réunion locale, contributions en ligne ou encore assemblée citoyenne? Les Français sont invités à s'exprimer et à faire part de leurs propositions sur des thèmes comme la transition écologique, la démocratie, les services publics ou encore la fiscalité. Alors que pensez-vous de ce grand débat? Peut-on parler de démocratie participative? Est-ce une bonne réponse à la crise des gilets jaunes selon vous? Et vous, si vous êtes en France ou ailleurs d'ailleurs, allez-vous participer à ce grand débat? Venez en parler avec nous, venez nous donner votre avis, cela nous intéresse. Pour cela, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France, le 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout ailleurs dans le monde. Et dans tous les cas, vous pouvez également nous laisser des messages sur notre page Facebook, facebook.com/journal des auditeurs. Mais d'abord, sans plus tarder, on se tourne vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter une sélection de vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour, c'est bien un de vos auditeurs de l'Afrique numéro 1 qui parle un peu pour le Congo. Au Congo, il y a eu des élections avec des machines à pitch, des machines à pitcher, pour faire du punch électoral. Un punch électoral. Bon, c'est bien, hein, c'est pas grave. C'est l'Afrique, on connaît tout, on sait que c'est comme ça. Bon. Si Papa Tshisekedi, le vieux, avait dit Tobe Benganaye à Rwanda. Aujourd'hui, le fils lui dit c'est un patriote. Les papas meurent, on les laisse pourrir dans la neige en Europe. Et c'est bien ce fils-là qui dit aujourd'hui que Kabila, c'est un patriote. C'est bien, ce sont patriotes à lui, parce qu'ils sont, ils ont fait la combine, tous les deux. Allez, ciao.
Bonjour Julia, bonjour les invités. Madame, je voulais intervenir là. Excusez-moi si vous pouvez diffuser ce message là, ça me fait plaisir. Vous savez, il y a des prêtres de merde qui se trouvent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ceux-là, c'est des escrocs fins, des pauvres qui vont travailler pour venir nourrir leurs familles. Ils sont là pour prendre l'argent avec des pauvres là. Au moins, il y a des paroles que les pauvres attendent. Un prêtre qui vient s'arrêter pour dire ouais, il va avoir la guerre. Il y a le ministre de l'Intérieur qui va mourir. Il y a Alassane qui va mourir. Il y a tous les gens qui sont avec Alassane comme Adjoumani. Tous ceux-là, ils vont mourir. Vous savez, ça, c'est un prêtre qu'on doit mettre en prison. C'est un prêtre qu'on doit, je ne sais pas comment on doit le traiter. Ça, c'est un prêtre. Normalement, si ça se trouve dans un pays anglophone, je sais qu'ils vont le descendre. Parce qu'un prêtre comme ça, il ne mérite pas d'être aussi un territoire. Dans les pays africains, chassez ceux-là. Chassez tous. C'est des coupés décalés des prêtres, des voleurs, des braqueurs. Voilà, merci. Au revoir.
Amis auditeurs, bonjour. Que Guillaume Soro soit là ou pas au congrès du 26 janvier du RHDP, cela n'enlève rien à la réussite de ce congrès. Ce congrès aura lieu et ça sera vraiment une victoire. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne comprends pas l'attitude de M. Guillaume Soro. Comment un président de l'Assemblée nationale peut aller soutenir un individu qui a détourné des deniers publics? Vous voyez, Guillaume Soro est aveuglé par le pouvoir. Il est prêt à tout pour le pouvoir. Vraiment, il faudrait que Guillaume Soro révise un peu sa position. Et c'est pour ça que je dis toujours aux Ivoiriens de ne pas faire confiance à Guillaume Soro. Bonne journée.
Oui, bonjour, je m'appelle Kisamba. J'appelle surtout pour m'adresser à ceux qui soutiennent le rappeur MHD. Écoutez un peu ce que dit ton avocat. Sa présence sur les lieux n'est pas avérée. Donc, il ne dit pas, il n'était pas sur les lieux. Que sa présence n'est pas avérée. Alors, s'il est innocent, comme ce qui n'était pas dans les lieux, peut-être qu'il est innocent, mais tout au moins, laissons la justice faire son travail. Voilà. Donc, s'il est responsable, s'il a participé, mais il faudra qu'il paye. S'il n'est pas responsable, s'il n'a pas participé, il faudra qu'il soit disculpé. Ciao.
Oui, bonjour, Africa Numéro 1. Je m'adresse au peuple africain, le ministre italien qui vient vraiment, qui défend l'Afrique. Je dis qu'il défend l'Afrique. Il vient d'annoncer la colonisation de la France, c'est les Français. La deuxième colonisation, c'est les bases militaires qui sont basées dans nos territoires. J'ai dit, il est temps, les Africains, les peuples africains, j'ai pas dit les présidents africains, j'ai dit les peuples africains. Parce que les pouvoirs, c'est pour vous, le peuple africain. Nos présidents, tout seuls, ne peuvent pas faire ce combat. Dès qu'ils vont faire ce combat, ils vont risquer, ils ont leur pouvoir, ils vont risquer, ils ont leur vie. C'est le peuple qui peut défendre les présidents africains. Si vous défendez les présidents africains, et défendez votre monnaie propre et votre armée propre. Merci, au revoir, bonne journée.
Sénégalais, Gambien, après la... Je voudrais féliciter le président Macky Sall, le remercier, ainsi que le président de la Gambie, M. Adama Barrow, pour la construction du pont de Farafina, Sénégambia Bridge. En effet, le pont devrait être construit depuis très 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 longtemps, si ce n'est le fait que les prédécesseurs de Amadou Barrow ont traîné les pieds, ils n'étaient pas très très chauds pour la construction de ce pont. Vous savez, des fois je pense que si le pont était construit, peut-être n'aurions-nous jamais connu le malheureux naufrage du bateau, le Djola, qui a fait plus de 2000 morts. Et vive la Sénégambie. Je vous remercie.
Bonjour, chers amis auditeurs d'Africa numéro 1. Brice à l'appareil. Alors, j'entends que l'ambassadeur italien en France est convoqué parce que, visiblement, la diplomatie entre les deux pays ne va pas trop. Alors, les Français semblent oublier que c'est M. Macron qui a brisé la barrière diplomatique en allant faire des leçons de morale aux Italiens pour avoir placé un gouvernement qui ne lui plaisait pas. Or, la barrière brisée, maintenant les Italiens rétorquent, en fait, c'est juste l'arroseur arrosé. Alors, est-ce que les Italiens ont dit un mensonge dans ce qu'ils racontent? Je crois pas, et le monde entier en est témoin, donc je pense que la France ne fait que de se ridiculiser à emmener l'histoire plus loin, parce que plus elle emmènera l'histoire loin, et plus d'autres pays risqueraient de les pointer du doigt en leur disant « mais c'est que la vérité ». Les colonisations en Afrique, et bien entendu, la colonisation existe aussi de la part d'autres pays, mais sauf que c'est les pays francophones qui sont les plus en mal et plus à la traîne en termes de développement. Et c'est bizarre. Et d'ailleurs, c'est ceux-là, généralement, qui possèdent les plus grandes richesses dans leur sol. Donc, voilà. Est-ce que les Italiens ont tort? Voilà la grande question. Je pense qu'elle ne se pose même pas, hein, à mon niveau. Allez, bon courage à la diplomatie française qui, depuis une dizaine d'années, est vraiment à la traîne, en fait, dans le monde. Salut!
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le JDA en composant le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui dans le JDA, qu'attendez-vous du grand débat en France, hein? Le grand débat national se déploiera tout d'abord, hein, à partir de réunions d'initiatives locales. Ces réunions, hein, permettront à chacun de débattre au cours de réunions publiques, de se faire entendre et de convaincre. Vous pouvez aussi contribuer en ligne à ce grand débat sur la plateforme, hein, lancée par le gouvernement français, granddebat.fr. Et à partir du 1er mars, des conférences citoyennes régionales seront organisées associant des Français tirés au sort dans chaque région à des représentants de diverses parties prenantes. Alors les thématiques sur lesquelles les Français peuvent contribuer sont la transition écologique, la fiscalité, les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics. Alors qu'attendez-vous de ce grand débat? Qu'aimeriez-vous dire au gouvernement français, que vous soyez en France ou ailleurs? Quelles sont vos propositions? On commence tout de suite avec Ibrahim. Ibrahim, bonjour. Bonjour Ibrahim.
Oui, bonjour madame.
Alors,
bonjour,
oui.
Stéphanie, bonjour.
Bonjour. Alors, je vous laisse vous rapprocher tranquillement de votre téléphone. Je sentais que vous étiez un peu peut-être essoufflé, mon cher Ibrahim.
Oui, donc j'étais voilà. Dans la cuisine. Oui.
Vous en prie. Vous faisiez à manger peut-être.
Ah oui, oui, oui.
Wow, ça donne envie. Bon appétit à ceux qui sont à table et qui nous écoutent. Ibrahim, vous êtes en France et ça vous intéresse, ce grand débat, mais vous êtes sceptique, c'est bien ça?
Je suis sceptique, dans la mesure où le procédé me paraît quand même dilatoire, parce que organiser comme ça un débat en plein mouvement, en pleine revendication, ça ressemble un peu comme s'il est surpris, comme si Macron il savait pas tout ça, alors que nous vivons tous en France et que le problème sont latents. On n'a pas besoin de grands débats. Et justement, moi, je pense que c'est pour gagner du temps. C'est pour que le mouvement s'essouffle, parce qu'il connaît l'état d'esprit de ses compatriotes, les Français. Nous oublions vite, avec ces histoires de sondages. Vous voyez, il est en train de remonter doucement, doucement. Et il a un peu, tout petit peu, glissé aussi dans une dynamique de campagne. Il a retrouvé son aura, comme on l'a connu, sa verve. Donc, il est en train un peu de nous faire oublier l'essentiel, le vrai problème. Alors que, comme à celle qui était candidate, madame...
Ségolène Royal, non ?
Ségolène Royal avait effectivement proposé, vous savez, ces grands débats-là.
Je crois qu'à l'époque de Ségolène Royal, en 2007, ça s'appelait Désir d'avenir. On faisait des réunions comme ça, où effectivement les gens étaient amenés, c'est ce qu'elle parlait de démocratie directe participative.
Démocratie directe participative. Les gens n'ont pas voulu, ça n'a pas été populaire. Pourquoi ? Parce que l'esprit de la Ve République, c'est d'avoir le sentiment d'avoir un homme ou une femme en face qui est comme le berger et qui sait où il nous conduit, dont on est sûr.
Et les Français, ce sont les moutons, donc, Ibrahim.
Non, on n'est pas moutons. Non. Quand je dis berger, c'est le terme biblique, en gros. C'est vraiment pas péjoratif. C'est pour dire que le président de la Ve République, c'est un président à qui on fait confiance, à qui les hommes ont donné leur destin, et qu'il est capable de savoir qu'on mange pas bien à sa faim et que les salaires ont baissé, le panier de la ménagère est presque vide. S'il est incapable de savoir ça, franchement, moi je trouve que ça c'est pas la peine, et c'est l'orgueil qui continue. Il est en train de faire gagner du temps, et à un moment donné, je pense qu'il va en sortir, malheureusement. Parce que quand on est tous fatigués, à un moment donné, chacun va rester chez soi et puis il va continuer en face de ses concurrents qui ne valent pas mieux que lui. Ils sont tous des menteurs, des populistes. Voilà. Donc, en gros, moi, je pense que la montagne va accoucher d'une petite souris, quoi. Malheureusement.
On a bien compris, Ibrahim. Vous avez fait une belle démonstration. Mais vous avez dit, quand même, en début de votre intervention, du finalement, voilà, les problèmes, on les connaît. Il n'y a pas besoin de grands débats. Vous avez cité quelques problèmes. On parlait de pouvoir d'achat, du panier de la ménagère. S'il y avait une mesure que vous aimeriez voir, Ibrahim, ou que vous aimeriez proposer, ce serait laquelle ? Soyons fous, hein.
Moi, c'est la justice fiscale. C'est pas vraiment, on va dire...
Le rétablissement de l'ISF, par exemple, l'impôt sur la fortune.
Oui. Ben oui, juste le sentiment. Okay, d'accord, donner le sentiment à quelqu'un qui l'a écouté, c'est déjà la moitié du problème résolu. Mais il veut pas le faire. Pourquoi il ne le fait pas? Donc les pauvres se disent, oui, on doit tous quand même consentir des efforts. Mais quand même, faut pas que ça soit une seule partie. Il faut que ceux qui sont en face aussi participent largement. C'est pas la peine. Bon, et le carburant, il a suspendu, moratoire, tout ça. Mais qui sait au moment opportun si ça va pas encore repartir. En attendant, il faut quand même rétablir l'ISF. C'est ce qu'on lui demande. Oui. C'est une mesure très très populaire. Pourquoi il veut pas comprendre? Voilà, on c'est ne peut clair. Pas être plus populaire que ceux qui vous ont élu, quoi. La majorité des gens disent on veut, mais établissez-les. Même si vous pensez que vous êtes le plus intelligent, vous pouvez pas être plus intelligent que tout le monde, quoi. Voilà.
C'est très clair.
C'est bon pour moi je pense.
Le rétablissement de l'impôt sur la fortune pour Ibrahim. Merci beaucoup, Ibrahim, d'avoir inauguré cette émission. Ibrahim, bonne journée à vous, à très bientôt. Ibrahim, dans quelques instants, on va se diriger à Abidjan, retrouver Yaya, qui a lui son avis aussi sur le grand débat et qui a peut-être des propositions aussi à faire. Je voulais juste préciser que à l'occasion du grand débat, le président de la République se rendra aujourd'hui dans la Drôme. Alors, hein, ce sera le premier, hein, le troisième plutôt, grand rendez-vous lié à ce grand débat. On a vu, hein, certains politiques se sont plaints que le président bénéficie d'une couverture exceptionnelle suite à ces rencontres. Alors, qu'en pensez-vous? 01 55 07 58 00 pour intervenir. Et puis, hein, comme le disait Ibrahim, hein, la cote de popularité du président Macron est en hausse, hein, dans les sondages d'opinion depuis une semaine. Est-ce que cela signifie qu'il a su gérer la crise des gilets jaunes? 01 55 07 58 00. Vos avis nous intéressent. Yaya, bonjour.
Ouais, allô, bonjour madame.
Bienvenue dans le journal des auditeurs, Yaya. On arrive bientôt à Abidjan, je l'espère, hein, sur le 91.1 ouais. FM. En attendant, mon cher Yaya, vous avez votre point de vue, vous, sur la politique française et peut-être des choses à proposer au président Macron?
Oui, bon, d'abord, la première chose, c'est que Macron n'a pas solution à les problèmes qui sont là pour le moment. C'est pourquoi? Parce que les gens demandent de réduire le pouvoir d'achat. Mais en réalité, les revenus de la France, ça vient d'où? Ça vient en Afrique. Et les Africains commencent à comprendre. Et, comme on le dit, on a dit nos yeux pour dormir. Nous aussi, nous avons des intellectuels maintenant qui essaient maintenant de sceller maintenant notre économie. Donc, ça veut dire que c'est tout ça qui crée les problèmes en France aujourd'hui. Et maintenant, Macron, qu'est-ce qu'il peut proposer pour que les Français puissent le comprendre? C'est là que c'est difficile. Parce que, c'est comme, je peux aussi m'exprimer, c'est comme on va dire un euro qui risque de partir en zéro. Donc, je ne pense pas que ce débat va apporter grand-chose à le problème qui est là actuellement.
Finalement, vous dites, Yaya, il faut que la France revoie son économie, si je vous comprends bien. Et j'imagine que ce n'est pas sans lien avec la sortie, hein, du ministre des Affaires étrangères, je crois, Luigi Di Maio, ministre italien notamment. Oui. Qui a parlé, hein, hier, qui a fustigé la politique néocoloniale de la France. Vous dites, hein, Yaya Fongbe, comme l'a dit d'ailleurs le ministre italien, finalement la France est une puissance mondiale grâce à ses anciennes colonies, grâce notamment aux ressources, hein, qu'elles apportent et aux ressources qu'ils ont été presque gratuites, exploitées gratuitement et puis à bas coût depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, la France doit réinventer son modèle économique, c'est bien ça?
Exactement. Bon. On ne peut pas compter sur les autres. Et maintenant, si les autres ne viennent pas en aide, qu'est-ce qu'on devient? Il est temps maintenant que la France essaie maintenant de réfléchir comment à l'avenir il pourrait s'en sortir lui seul. Parce que la colonisation, on ne va pas rester de colonisation en colonisation. Non, non. Il est temps que les choses changent. Donc, il est temps maintenant que les Français ils réfléchissent, trouver une solution à leurs problèmes. Au lieu de toujours attendre la main à la colonie.
C'est très clair, mon cher Yaya. Merci de votre contribution, Yaya. Bonne journée à Abidjan. Salut, hein, d'ailleurs, hein, tous les Abidjanais. Merci, Yaya. Yaya qui revenait, hein, sur effectivement ce problème au cœur du système français. Et si la France était en crise par COSI, elle perd de l'influence sur le continent africain. En tout cas, hein, je rappelle, hein, que Luigi Di Maio, hier, a appelé l'Union, dimanche plutôt, a appelé l'Union européenne à prendre des sanctions contre les pays qui, comme la France, hein, sont, selon lui, à l'origine du drame des migrants en Méditerranée, en les faisant partir d'Afrique. Selon le ministre italien, hein, il y a des dizaines de pays africains, je cite, hein, où la France imprime une monnaie, le franc des colonies, franc CFA, et avec cette monnaie, elle finance la dette publique française. Si la France n'avait pas les colonies africaines, hein, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, elle serait la 15e puissance économique mondiale, alors qu'elle est parmi les premières, grâce à ce qu'elle est en train de faire en Afrique. Alors, qu'en pensez-vous? 01 55 07 58 00. Est-ce que on peut introduire ce genre d'éléments dans le grand débat national en France? On va demander à Diomo de Beng. Bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie. Bonjour à tous les auditeurs d'Africa numéro 1.
Bonjour Diomo de Beng. Alors, que pensez-vous, hein, de ce que vient de dire finalement Yaya? Un point de vue, hein, vu d'Abidjan, vu de Côte d'Ivoire, êtes-vous d'accord avec cette analyse?
Je suis pas d'accord. Je vous ai toujours dit que moi, je suis contre ce patriotisme africaniste et tout ça. Je suis contre tout ça. Moi, je vais aller trop vite et de pas. Voilà, je n'ai pas commenté ce qu'il pense, c'est sa pensée. mais elle est différente de la mienne. Mm. Moi, je tiens à vous informer que je suis élu républicain cette année.
Alors, j'ai failli vous présenter comme ça, Diomone Beng. Alors, dans le 91, c'est bien ça, vous êtes élu. Hein.
Voilà, je suis élu républicain déjà dans le 91, dans la 4e circonscription de l'Essonne, bien sûr.
Voilà. Et vous avez organisé des réunions publiques, des réunions locales?
Non, mais c'est ce que je tenais à vous dire, c'est que cette année, j'ai renoncé à mon mandat parce que je partage pas les mêmes idées que Monsieur Wauquiez.
D'accord.
Donc, du coup, j'ai renoncé à mon mandat. C'est vrai que j'étais bien loti, mais bon, j'ai dit, bon, c'est bon, il faut pas aller contre le détriment des républicains.
C'est vrai que okay, la situation des républicains en France mériterait une émission à elle seule, mon cher Diomone Beng. Voilà. Vous faites partie de ceux nombreux, hein, finalement, ce qu'on entend beaucoup ces derniers temps, hein, qui ont décidé de rompre avec la ligne de Wauquiez.
Voilà. Et pour le débat, moi, j'avais dit, Stéphanie, sur cette antenne-là, que j'avais voulu et j'ai demandé aux premières heures des mouvements des Gilets jaunes que le président Macron puisse les recevoir. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus les Gilets jaunes qui rentrent en ligne, mais c'est toute la France, y compris même la petite classe, même la classe la plus petite rentre en rébellion maintenant contre Macron. Mais je pense qu'il a choisi un débat en rencontrant les élus, c'est-à-dire les maires. Il a rencontré déjà plus de 1200 maires, mais ces maires ne disent pas en vrai le vrai problème qui a suscité tout ça. Parce que je regarde toujours ces débats, même si ça fait 7 heures, mais je me dis que les maires sortent leur problème à eux, mais ils sortent pas le vrai problème des Gilets jaunes. Mmh. Ils le sortent pas, parce que moi, quand j'écoute le débat et qu'il y a un maire qui dit « Ouais, dans ma commune, j'ai besoin de carte d'identité », on n'a pas besoin d'une machine à carte d'identité, on a besoin de rehausser l'économie et le pouvoir d'achat, Stéphanie, c'est ce que j'ai dit. C'est le pouvoir d'achat qui importe. Aujourd'hui, si le président Macron prend à bras-le-corps le problème du pouvoir d'achat, vous verrez que tout ce à quoi nous sommes en train d'assister va diminuer. Je n'ai pas dit que ça va finir, mais ça va diminuer. Imaginons un instant que M. Macron dise « Bon ben voilà, je vous donne 100 euros ». Mais nous ne sommes pas à la rue. Nous ne sommes pas à la rue pour 100 euros. Et déjà, quand moi je prends mon carburant, je prends mon cas personnel, moi j'habite Villebon, je travaille à Mency. Et vous savez combien je dépense dans le carburant? Mais plus de 100 euros par mois. Alors je ne suis pas un mendiant. Il faudrait que le pouvoir d'achat soit revu par le président. Au lieu d'aller voir les maires, je préférerais, et je sais que Emmanuel Macron, il est très intelligent et il a cette envie d'aller voir les Gilets jaunes, mais les conseillers autour de lui. Je vous ai dit, lors de ma dernière intervention qui date depuis très longtemps, je vous ai dit que quand on a Monsieur Castaner autour de soi, quand on a François de Rugy, alors c'est difficile qu'on puisse prendre des décisions aussi bonnes que celle-là. Parce que quand on te dit derrière, tu ne vas pas voir les Gilets jaunes parce qu'ils n'ont pas de préoccupations, sachant que ces Gilets jaunes-là, c'est eux qui ont fait aujourd'hui que la police qui est en train de mater aussi les gens aujourd'hui ont eu plus de 40 euros de plus sur leur salaire. Alors pourquoi ne pas aller les voir, discuter avec ces personnes-là, savoir en vrai, pointer du doigt les vrais problèmes.
Ils ont été invités, c'était compliqué, mais on a bien compris, il faut que le dialogue... Alors j'en profite, mon cher Diomode Beng, de votre contribution pour vous donner cette information. Il y a un collectif qui s'est formé, et qui s'appelle le collectif Démocratie Ouverte. Il est notamment composé de Gilets jaunes, dont la jeune femme, dont je n'ai pas noté le nom, Priscilla Ludowski, d'élus locaux également, hein, d'écolo. Alors ce collectif a envoyé une lettre à Emmanuel Macron pour que finalement ce grand débat ne soit pas vain et ne soit pas une manœuvre dilatoire, hein, comme le disait notre premier invité. Et notamment, ce collectif réclame la mise en place d'une assemblée citoyenne avec des personnes tirées au sort et chargées de faire le tri entre toutes les propositions issues du grand débat national avant d'organiser un référendum à choix multiples. On entend beaucoup aussi ce RIC réclamé par les Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que vous y êtes favorable? Et puis, quelles questions vous avez envie de soumettre, par exemple, si un référendum était possible? On va demander à Issa. Issa, bonjour. Oh, bonjour Issa.
Ah, bonjour, cher Stéphanie, j'ai pas bien entendu.
Ah, vous disiez...
Excusez ma passion tellement que j'ai pas cru de mes oreilles. Ça va bien, tout seul.
Ça faisait seulement 3 minutes que vous étiez au téléphone, Issa. Vous n'étiez pas beaucoup patient, hein.
Oui, je dis, je suis tellement passionnant que
j'ai pas
à croire mes propres oreilles. J'ai bien entendu Issa, mais ça m'a pas...
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous trouvez passionnant? Parce que voilà, on a un peu tiré sur la corde et ça allumait le standard. Oui. On disait finalement, est-ce que parmi les propositions du grand débat national, on pourrait pas proposer que la France revoie sa politique envers l'Afrique, voilà, ou quelque chose comme ça? Sur quoi vous vouliez réagir, Issa?
Oui. Nous sommes en l'an 2019, bientôt l'an 2020. Je ne sais pas ce qu'il faut à l'Afrique pour qu'on dise à la France que ceci ou cela. Et pourquoi pas l'Afrique, des individus dignes de son nom, de bagages intellectuels, qui soient en mesure de parler à la France ce qu'il faut, que nous, le petit peuple, on n'est pas en mesure de dire. Pourquoi attendre que la France fasse? Pourquoi pas l'Afrique? L'Afrique, c'est 80% du bois. Le carburant, c'est pas 32%. Les terres arables, plus que la moitié. Les autres territoires les plus riches au monde, ma sœur Stéphanie, demandez à la France pour qu'elle revoie sa position. Est-ce que ce n'est pas cette France qui disait qu'il est tout à fait lucide à ce que les nations extra-européennes soient expropriées de leur cause pour utilité publique?
Est-ce pas cette France? C'est le discours colonial. Alors justement, Issa,
ma sœur, c'est le passé qui fait le présent. Le mort est trop naïf.
On est bien d'accord.
Le passé, c'est le présent.
Donc est-ce que en tant qu'Africain vivant en France, vous allez vous connecter sur grandebat.fr et exprimer cela?
Moi, je vous dis tout simplement, ma sœur Stéphanie, tout ce qu'il faut que nous fassions, nous, Africains, c'est à partir de l'Afrique, avec nos frères, avec nos têtes, avec nos cerveaux, à la Patrice Lumumba, à la Sékou Touré, à la Thomas Sankara, et non pas à la France, ou je sais pas, à la Punta ou à la Mounia, c'est à l'Afrique, et seulement à l'Afrique, rien que l'Afrique, ma sœur Stéphanie.
C'est très clair.
Moi, chaque fois que j'interviens, je vous dis, moi, je crois, ni de loin ou de près, aux USA, je ne sais à qui, je crois seulement à l'Afrique, aux jeunes de l'homme noir. Pourquoi pas? Pourquoi on ne fait pas de débat sur l'Afrique et les Africains, sur les intellectuels africains, parler de l'Afrique?
On peut en parler, des intellectuels africains. C'est intéressant, Issa, vous parlez d'intellectuels africains, parce qu'il semblerait, hein, en tout cas, c'est nos confrères de Nofi qui révèlent l'information, hein, que ce soit l'activiste Kémi Séba qui aurait soufflé à l'oreille du ministre italien Luigi Di Maio, cette sortie sur le néocolonialisme français. Voilà. Merci Issa, qui voulait qu'on parle d'Afrique et uniquement d'Afrique. Bonne journée à vous, mon cher Issa. On va écouter Karamoko. Le coq de Guédou, bonjour. On va clore ce chapitre africain. Bonjour, le coq de Guédou.
Le sujet est tellement passionnant, il fait dormir, mais des fois, il fait ressusciter les ancêtres africains.
Amen.
Moi, je remercie Macron. Parce que Macron, il a éveillé la conscience de la masse dormante. Parce qu'aujourd'hui, cette histoire, l'ébullition de la France, c'est pas un sujet tabou. Parce que nous avons affaire à la minorité qui manipule la majorité depuis 500 ans. Attendez, madame, est-ce que c'est compliqué? Un être humain qui voit son prochain souffrir, il lui dit, mon ami, tu gagnes beaucoup d'argent, diminue un peu pour qu'on ait quand même la même vie. Est-ce que ça, il y a débat?
Est-ce que finalement, monsieur le coq de Guédou, cette expression des gilets jaunes aussi, cette crise des gilets jaunes, n'est-ce pas aussi l'expression d'un monde qui change et du désarroi d'une certaine catégorie de Français qui ne comprennent pas beaucoup?
C'est de ça que je parle. Quand tu frappes ton enfant, tu le poursuis tous les jours devant les gens, tu l'humilies, il y a un jour, il se tourne contre toi et dit, papa, c'est fini, je suis fatigué. Je suis fatigué, donc moi je pose une question aux Africains. Par rapport à ce qui se passe dans le monde entier, quelle est la place de l'Africain? On doit se poser la question. On dit France et on dit Africain, on dit blanc, on dit noir. On n'est pas pareil depuis l'ère des temps. Mais pourquoi nous, Africains, c'est le blanc qui va nous aider?
Est-ce que finalement vous aimeriez voir ce type de grand débat? On l'a peut-être vu avec les assises nationales au Sénégal ou des états généraux ici et là. Ce type de grand débat également dans plusieurs pays africains pour poser cette question comme vous venez de le dire. Hein. Quelle est la place de nos pays dans le monde aujourd'hui?
Je parle. On était les premiers. On a fait les bases de l'humanité. On a créé les mathématiques, les pyramides et les hiéroglyphes. C'est l'Africain qui a créé la science. Mais depuis 500 ans, l'Africain, il attend que la main tombe du ciel. On attend toujours les autres. On va prier les dieux des autres pour que ces dieux-là viennent nous aider quand on est frappé, quand on est maîtrisé par l'autre blanc qui ne prie pas Dieu. Voilà d'où vient le mal de l'Africain. Bon. On n'a pas de respect pour nos prochains. On a perdu la tradition africaine.
Retour aux sources, mon cher coq de Guédou.
L'Africain, il est des gilets jaunes pour que la jeunesse africaine combatte l'histoire de l'Afrique.
Des gilets jaunes en France, voilà. C'est clair. Merci.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, le coq. Je vous libère, hein. Je crois qu'il y a votre petite fille derrière qui vous réclame. Alors, on fait des grands écarts, hein. Quoique pas tant que ça, hein, entre la France et le continent africain. Mais c'est aussi le but de cette émission, hein, voire de cette radio. Bonjour David, on va conclure avec David cette émission.
Bonjour, excusez-moi.
Bon, je vous en prie, bienvenue.
Voilà, en fait moi je intervenais surtout par rapport au discours du ministre italien. Et je dirais plutôt que la France, en fait, à l'inverse de ce que les gens pensent, moi, je pense que la France a eu une mauvaise stratégie vers l'Afrique, qui a été de négliger le continent alors que ses débouchés économiques étaient de ce côté. Et c'est un discours qui a été tenu pendant un bon moment. Et en fait, ils s'aperçoivent aujourd'hui que ils ont perdu beaucoup, beaucoup au détriment de la Chine. Et je crois que c'est là qu'il faut refaire dans ce grand débat et non pas parler de l'immigration comme un mal, voir l'immigration comme un atout pour la France. Moi, je ne suis pas...
Donc, contrairement à Yaya qui disait au début de l'émission, qui disait, il reste à peine une minute, donc on va faire vite, qui disait au début de l'émission, il faut que la France trouve un système sans compter sur l'Afrique. Vous vous dites, non, voilà, on doit avoir un partenariat partagé.
Non, je ne crois pas, parce que l'Afrique a besoin de la France. Clair. Je pense qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, remettre encore en cause une longue histoire comme celle-là. Parce qu'il y a retrouvé une autre politique vis-à-vis du continent. C'est pas simplement l'exploitation des ressources que moi je conteste. Je dirais simplement que le ministre italien a un mauvais rôle de dire ça, parce que les Italiens sont ceux qui ont signé des accords avec les Libyens pour retenir des Africains dans des conditions...
Et il fallait le dire, David, et vous l'avez dit, je vous en remercie. On arrive malheureusement à la fin de cette émission, c'est pour ça que je suis obligé de vous interrompre, on n'aura pas le temps de prendre Zré, qui disait le débat est important, il faut le faire, Karamoko dit ça sert à rien, ça va pas changer... Grand chose, rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. Demain, nous parlerons de la présidentielle qui s'annonce d'ici un mois au Sénégal. N'hésitez pas à vous inscrire en laissant un message sur le répondeur. Prenez soin de vous, à demain.